Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Un mardi sur quatre, nous avons plaisir à vous retrouver sur cette antenne pour vous faire partager notre passion des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio un monument de la chanson yiddish, un mensch, comme on dit. Et j'ai cité, bien entendu, Ben Zimet. Ben Zimet, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, je suis ravi de vous rencontrer et de vous accueillir dans ce studio pour évoquer votre carrière en trois mots. Vous avez fait vos débuts de chanteur et de conteur yiddish au Café Théâtre de la Vieille Grille en 1973. Vous n'hésitez pas à me corriger s'il y a une erreur dans votre biographie. Vous aviez comme compagnon de route à l'époque Eddie Schaff, le grand accordéoniste, pianiste et compositeur. Vous êtes avec Sarah Gorby, Jenya Fireman, Léa Fischer, Violette Smadger, Talila et Lionel Rochman, un des acteurs du renouveau de la chanson yiddish en France au début des années 1970. Et si on compte bien, ça fait 40 ans de carrière. Et quelle carrière ! C'est une carrière assez immense. Mais ce soir, vous êtes dans ce studio pour nous présenter votre toute nouvelle production, un CD intitulé « Ben Zimet ». Un enfant de la Corrèze. Pour rentrer dans le vif du sujet, avant d'en dire plus, de parler de ce CD, je vous propose d'écouter tout de suite le début de ce CD, Ben Zimet, un enfant de la Corrèze.
C'est l'orage ?
Non, c'est la guerre. De la fenêtre grande ouverte au deuxième étage de notre petit appartement, à Anvers, Je vois, au loin, un ciel gris sans nuages, soudain strié d'éclairs fulgurants. Juste après, on entend une série de coups sourds semblables à des coups de butoir. C'est le canon qui gronde. J'ai 5 ans et l'impression d'assister à un spectacle. Je n'ai pas peur. De temps en temps, je me retourne vers mes parents. Ils sont là, debout derrière moi. Ils ont l'air tristes et préoccupés, mais ils ne disent rien. Ma mère est pâle, très pâle. Jamais je n'oublierai son visage ce jour-là.
Le début de votre CD, donc Benzimet, un enfant de la Corrèze, on commence à peine à rentrer dans l'histoire et c'est très difficile de la couper comme ça, Benzimet. Je dois dire que lorsque j'ai reçu ce disque, Michel Lévy, votre producteur, m'a envoyé, il sera là dans ce studio tout à l'heure, j'ai été surpris parce que ce n'est pas un disque qu'on a l'habitude d'entendre de vous. Je connais beaucoup, beaucoup votre discographie. À l'Institut européen des musiques juives, je ne dirais pas qu'on a tous vos disques, malheureusement, de loin, on ne les a pas tous. Mais celui-là est assez particulier, en fait. Vous chantez, bien sûr, mais aussi vous parlez, mais après tout, comme on l'a dit, vous êtes chanteur et conteur yiddish, mais surtout, vous vous racontez. Vous êtes à la fois le narrateur et le héros. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous est venue un peu l'idée de ce disque ? Pourquoi ce disque ?
Eh bien, il a dû germer pendant 40 ans, puisque je ne l'ai pas fait avant. Mais en fait, peut-être vous le savez, ou peut-être pas, mais il y a 40 ans, quand j'ai commencé d'être chanteur, je voulais surtout que le grand public sache que le yiddish existe et que derrière le yiddish, il y avait une culture encore vivante avec des possibilités d'avenir. Et au fur et à mesure, au fil des années, j'ai construit des spectacles où je voulais représenter en musique et en paroles sur scène la multiplicité des courants qui traversent la culture yiddish. Et donner ça à entendre et à voir au public, pas nécessairement juif, parce que très souvent je me suis produit devant des publics où les juifs identifiables étaient très minoritaires. Et il y a quelques années de cela, j'étais arrivé, je crois que c'est au début des années 2000, il arrive toujours un moment où on se dit, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire ? Et j'avais l'impression, moi, à cet âge-là, d'avoir tout dit. Ou bien je n'avais plus d'inspiration. Et je suis parti, il y a eu une rupture affective aussi, mais je suis parti en Afrique pour me ressourcer. Et une fois installé en Afrique, j'étais très content de l'accueil que je recevais là-bas. Et je me sentais très à l'aise aussi, un peu chez moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est un vieux fantasme qui se réalisait pour moi. Et j'ai quand même cherché à apporter quelque chose là-bas. Et j'ai créé un festival à Gorée sur le thème de l'esclavage qui a eu énormément de succès pendant 3 ans. Et puis ensuite, comme beaucoup d'autres festivals, il n'y a plus d'argent et donc il n'y avait plus de moyens. Mais pendant les 3 ans où ce festival a duré, de 2007 à 2009, il a attiré des dizaines de milliers de gens à Gorée parce qu'ils n'avaient non plus jamais vu une chose telle que j'avais montée là, avec une centaine d'artistes qui tous parlaient de façon différente de l'esclavage. Il y avait aussi des intellectuels, des philosophes qui venaient. Enfin, c'était construit d'une manière assez structurée, quoi, autour... les différentes voies autour de l'esclavage. Et c'est à Gorée, finalement, où, à cette époque-là, que m'est venue l'idée de parler enfin de moi à la première personne, chose que je n'avais pas faite pendant toutes ces années. Je me considérais, bon, au début, ce n'était pas aussi clair et précis, mais au fil des ans, je me considérais un peu comme un genre de porte-parole de la culture yiddish, mais je n'avais jamais parlé de ma propre vie. Et ma propre vie contient un chapitre qui a probablement motivé tout le reste, si on en fait l'analyse, et qui a donné cet enfant de la Corrèze.
Mais est-ce que, sans vouloir faire de la psychologie de bas étage, peut-être qu'il vous fallait passer par déjà cette souffrance des autres, dire la souffrance des autres, de l'esclavage, la souffrance du peuple africain qui, donc, pendant longtemps, a souffert d'être considéré comme moins qu'un humain, pour pouvoir, vous, à votre tour, exprimer votre souffrance. Peut-être que c'était, quelque part, une façon, en fait, d'exorciser ce passé, ce voyage en Afrique, je ne sais pas, hein, de pouvoir mettre en spectacle et en musique la souffrance de l'esclavage, puisque c'est le thème du festival, et ça vous a permis de libérer votre propre souffrance, peut-être, non?
Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même.
Je ne vais pas vous demander de vous allonger sur la table, on n'est pas dans une séance de psychanalyse, mais moi, c'est ce que ça m'évoque un peu, et je trouve ça magnifique, en fait, cette façon, en fait, d'aller à l'intérieur en passant par l'extérieur, en fait, et c'est vraiment très beau. Et bah, écoutez, comme le principe de cette émission, c'est de rythmer régulièrement avec des musiques, je vous propose qu'on continue à parler justement comment vous est venu ce spectacle, mais qu'on écoute tout de suite l'extrait suivant. Il s'agit de la chanson Fischer, justement, une chanson yiddish que vous interprétez avec Nicole Uzan. Fischer, un chant traditionnel interprété ici par Ben Zimet et Nicole Uzan. Nicole Uzan, en deux mots, c'est une chanteuse comédienne, une véritable touche-à-tout, avec un répertoire très large qui s'étend du Moyen-Âge aux musiques contemporaines, en passant par des spectacles, et on le voit bien dans le vôtre, où elle est ici accompagnée de Maurice Delestier. On parlera un peu des artistes après. Pour nos auditeurs qui ne parlent pas le yiddish, que dit cette chanson en quelques mots?
C'est une chanson d'amour. Le pêcheur s'en va à la mer et il espère attraper des poissons, forcément. Et moi, dit l'auteur, je ne sais pas qui c'est une chanson qui doit dater du 19e siècle, qui me fait penser à Schubert,
C'est exact.
Oui. Mais vous savez que les Juifs de l'Europe de l'Est étaient très sensibles à la musique classique à cette époque-là et très friands de cela. Mmh. Et je pense que les auteurs, je vais revenir au sujet tout à l'heure, je pense que les compositeurs yiddish étaient sensibles à cette chose-là aussi, parce que souvent on trouve des chansons comme celle-là, très porteuses, mais qu'on peut relier au répertoire classique, romantique, occidental et largement allemand.
Mmh. Nous, il y a eu des vrais échanges tout à fait dans la culture des Juifs, notamment d'Europe centrale, je dirais plus. Effectivement, il y a des études en cours qui montrent les interpénétrations des répertoires, notamment dans les chansons, entre les chansons allemandes et les chansons yiddish, mais également dans la musique. Ça va tout à fait dans le sens que vous dites.
Et je sais, parce que nous avons un peu travaillé sur la question avec Maurice Delestier, mon accompagnateur tout terrain depuis, et compositeur par ailleurs depuis 40 ans, que Schubert a écrit une œuvre pour le chantre de la synagogue de Vienne.
Oui, Salomon Sulzer, tout à fait.
Vous l'avez, cette...
Oui, cet enregistrement à l'Institut européen des musiques juives.
Je sais que vous l'avez tout.
Mais on a, complètement. Oui.
Alors, c'est assez... c'est plus qu'amusant. C'est plus qu'une anecdote, parce que le lien... c'est vrai que la musique yiddish, elle puise un peu partout. Mais d'avoir... puisé dans le répertoire romantique européen du 19e siècle, et peut-être du 18e aussi, je ne sais pas, vous pourrez me le dire mieux, que moi, je trouve ça assez fascinant. Voilà, assez fascinant. Et nous avons une chanson avec Maurice Delestier et Nicole Uzan, où nous avons mélangé, je crois que... On l'a donné en public plusieurs fois dans différentes représentations en France, mais la moitié de la chanson est une chanson yiddish. Attendez, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le titre maintenant. Et l'autre moitié, c'est du Schubert que Nicole chante d'ailleurs.
D'accord.
Très très bien.
C'est amusant parce que dans une émission précédente, on a entendu, c'était une émission consacrée au rapport entre musique et cuisine juive, et la recette du gefilte fish chantée sur l'air de la truite de Schubert, et on voit là aussi une corrélation assez intéressante. Je vous la ferai entendre à l'occasion. Revenons à votre histoire, parce que c'est aussi le sujet de cette émission, cette histoire donc de cet enfant de la Corrèze. Vous aviez commencé à nous raconter, on va reprendre le fil de l'histoire. Pourquoi vous avez réalisé ce disque qui est avant tout un spectacle, hein. Et vous nous disiez que ce séjour en Afrique a pu vous permettre enfin de libérer la parole.
Oui.
Alors qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Eh bien, j'ai commencé à écrire mes souvenirs et j'ai commencé par les débuts, ce qui me revenait en esprit. J'étais au calme là-bas et je me suis dit, je vais parler de cette partie de mon existence qui commence avec l'exode en 40 et le refuge dans la zone libre. Dans un petit village du sud-ouest, à côté de Béziers, qui s'appelle Nissan-les-Anserunes, où nous avons vécu les deux premières années de la guerre. Et puis ensuite, nous n'avons pas été trop embêtés pendant cette période-là, parce que c'était la zone libre, et même les gendarmes français se tenaient, quoi, ils nous laissaient tranquilles. Ils avaient peut-être reçu des instructions, parce que après tout, ils recevaient leurs instructions directement de Vichy et un gendarme obéit aux ordres. Si on lui dit de réunir 20 juifs et de les envoyer à Drancy et puis à Auschwitz, enfin la porte d'Auschwitz, il le fait. Si on lui dit de ne pas le faire, il ne le fait pas.
Et à l'époque, vous étiez avec votre famille, mais on savait que vous étiez juif. Vous n'étiez pas un enfant véritablement caché, avec une identité. Vous étiez arrivé dans ce village en tant que famille juive. Les gens le savaient ou non ? C'est ça la question.
Je pense que la plupart des gens devaient le deviner. D'ailleurs, là où nous habitions, dans une grange en plein champ, premièrement. Bon, est-ce que nous avions... En fait, je ne sais pas exactement quel était le rapport... Ça, c'est une question que je peux poser à d'autres. Quel était le rapport de ma famille ? Parce qu'il y avait d'autres familles juives à Nissan aussi, qui venaient de Belgique. Nous étions venus directement de là-haut, de Belgique jusqu'à Bordeaux. À Bordeaux, nous avons raté le dernier bateau pour l'Amérique. Et de là, de Bordeaux, on nous a envoyés à Nissan-les-Anserunes. Je ne sais pas qui a décidé ni comment. Simplement, je sais qu'après, quand les Allemands ont envahi la zone libre, parce qu'ils avaient peur de tous les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, Et les Français, je sais, ont reçu des instructions précises, les préfets ont reçu des instructions précises leur demandant de regrouper tous les Juifs et tous les autres métèques et de les expédier au Massif central, en Corrèze. D'accord. Et c'est comme ça que nous avons atterri là-bas. Ils nous ont pris nos papiers à l'arrivée, ça je sais aussi, parce que maintenant, je vais souvent en Corrèze. D'ailleurs, nous travaillons avec des gens en Corrèze qui s'intéressent aux mémoires juives du Limousin. Et là, nous avons été carrément cachés à différentes reprises, dans différents lieux, parce que les Allemands rayonnaient dans la région. Et surtout, pire que la Wehrmacht, évidemment, c'était les SS, les plus diaboliques des soldats de l'époque.
Donc cette histoire, vous la racontez tout au long de ce disque qui est donc, on le rappelle, issu d'un spectacle. C'est-à-dire, quelque chose, je me suis dit, mais est-ce qu'il existe un DVD qui a été fait de ce spectacle? Parce qu'il y a un côté un peu, on a envie de le voir, quoi, mais vous le racontez tellement bien qu'on le voit, qu'on le visualise, ce spectacle. Je répète, c'est à la fois une histoire, mais il y a évidemment ces rythmés de musique. Hein,
Oui, c'est vrai que traditionnellement, pour un chanteur... Quand il fait un spectacle, on dit ben, il va faire un DVD et après éventuellement le CD. Et moi, je ne sais plus pourquoi, nous avons décidé de faire le CD. Et je crois que mon producteur, Michel Lévy, envisage de faire également le DVD.
D'accord.
Ultérieurement, donc on le signalera à ceux que ça intéresse.
Absolument, absolument.
Mais ils peuvent aussi le voir sur scène, le spectacle. Enfin, il a déjà... Nous l'avons créé juste à côté, la vieille grille, au mois de décembre 2010. Ensuite, il a tourné en France, dans les francophonies du Limousin. Et puis, l'année dernière, il était au Festival d'Avignon pendant un mois.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, ce qu'on va continuer, c'est toujours pareil, rythmé de musique, comme vous le faites dans votre spectacle. Donc, et on va revenir sur cette histoire. On va entendre tout de suite la célèbre chanson « Eufenweg ». Chanson évidemment écrite par le célèbre poète et chansonnier yiddish Itzik Manger, mais interprétée ici par Ben Zimet.
Sur la route, il y a un arbre. De cet arbre, tous les oiseaux se sont envolés, car c'est l'hiver. Et c'est moi, Ben Zimet, que le poète a placé sur la branche pour y chanter les louanges de mon peuple. Mais il fait très froid et ma mère craint pour moi. Et elle me couvre tant, et elle me couvre tant que son amour m'empêche de m'envoler. Eufenweg, steigt der Baum, steigt der angebogen. Alle Feige von den Bäumen seinen sich zu pflügen. Draken Misre, Draken Meiref und im rechten Dorn. Auf den Bäumen gelost allein hef gefahren Sturm. So geht sie die Mama her, soll's mich noch nicht stern, welch Mama eins und zwei bald der Vögel werden. Ich will sitzen auf dem Baum und will ihm bewegen. Eben Winter mit der Treist, mit erscheinem Niegen. Yam tiddle day da 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 day. Yam tiddle day da 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 day. Sagt die Mama, it's a kroin. Und sie weint mit Tränen. Gänz gelille, häufen Bäume, mir verfreuren wären. Sag ich, Mama,
c'est a chouette d'un scheine Augen. Eider vos und eider wenn bin ich mir a Feugel. Weint die Mamme itse Kräun. Nehm um Gottes Willen, nehm Gott Schmidt a Schalekel. Sollst doch nicht verkehren, die Galoschen, diese Hohn, es geht a scharfer Winter. In der Kitsch mit diese Hohn, weiß mir und wind mir. Yum, tiddle a day, da 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 day. Yum, tiddle a day, da 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 day.
C'est une chanson extraordinaire.
C'est magnifique, c'est vrai que...
C'est surréaliste. Mm.
Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi elle parle? Moi, j'ai amené la traduction, mais j'aimerais avoir, enfin, que vous nous le disiez avec vos mots, parce que c'est à la fois un classique, mais c'est
sur la route,
profond.
Il y a un arbre.
Oui.
Sur cet arbre, il y a de cet arbre, tous les oiseaux se sont envolés. Et après, j'oublie exactement le texte.
En fait, c'est le texte...
Mais je me suis substitué au poète, parce que comme il était surréaliste lui-même dans sa démarche, j'ai inventé une image où c'est moi qui suis perché sur l'arbre, et c'est moi qui ai froid, et c'est moi que ma mère essaye de couvrir, mais je suis quand même là en train de chanter les louanges du peuple juif.
C'est ça qui est extraordinaire. Je vais vous lire, si vous voulez, la traduction. Donc,
oui, dites-la moi.
Alors, sur la route, un arbre pleure, ses bras déchirent le brouillard, les oiseaux chers à son cœur sont partis un beau soir. Oh, ma mère, écoute-moi, il me faut des ailes, le temps de claquer des doigts. Je peux être une hirondelle, je vais me nicher dans l'arbre, je vais sécher ses larmes, et près de lui, tout l'hiver, je chanterai cette air, laï, 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 laï.
Et alors, c'est de qui la traduction?
Ça, c'est une traduction que j'ai très honnêtement trouvée sur un site. Il faut que je recherche. Elle est magnifique, oui, tout à fait. Oui. Je la donnerai sur le site de l'Institut ou de la radio pour qu'on puisse la retrouver. Et donc, à ce moment-là, la mère dit « Non, dit la mère, non mon fils, en pleurant à chaudes larmes, sur ton arbre tu vas geler, ce serait pour moi un drame. Mais maman cesse de pleurer, tu abîmes tes jolis yeux, et voilà qu'en moins de deux, je suis un oiseau de feu. » N'oublie pas tes bas de laine, n'oublie pas combien je t'aime. Et la mère couvre son gosse sous une montagne de fringues et lui dit que son arbre, il irait droit sous le marbre. J'essaye de battre des ailes, impossible de décoller. Je ne suis qu'un faible oiseau et tant de choses sur le dos. Je regarde avec tristesse les yeux de ma mère. Son amour et sa tendresse ont brisé mon rêve. Ça, c'est... On a fait aussi une série d'émissions sur l'amour des mères juives en musique, et là, on est dedans, quoi.
Surtout, ça me fait penser à une phrase du spectacle quand ma mère me laisse chez des gens en Corrèze, et elle me dit, surtout, et c'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai de la période de la guerre, d'ailleurs, surtout, fais semblant de ne pas comprendre si jamais on te parle en allemand. Elle dit ça au petit garçon de 7 ans et je me retrouve tout seul avec la famille, la CIA, qui étaient des gens sympathiques en Corrèze. Mais le sentiment d'abandon total que j'ai eu ce jour-là, quand j'avais 7 ans, je ne l'ai jamais retrouvé à un autre moment de ma vie. Voilà.
Et chez vous, en famille, on parlait yiddish uniquement ou quand...
Oui, oui. C'est-à-dire qu'on parlait, ma mère parlait un allemand yiddishisé parce qu'elle était originaire de Nuremberg. Mon père, lui, il était originaire de Pologne, de Galicie. Et donc, quand ils conversaient ensemble, c'était en yiddish et en allemand, zerbrochen allemand, quoi. en quelque sorte. Mais on parlait aussi un peu le flamand avant la guerre, puis pendant la guerre français, avec leur, avec, eux avec leur accent. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a pu passer inaperçu. Elle était un français rocailleux, quoi, comme en Corrèze peut-être, ou dans le sud-ouest de la France. Et puis après la guerre au Canada, ils parlaient l'anglais. Ils ont appris l'anglais, moi aussi d'ailleurs. Et ils parlaient le yiddish l'anglais avec des accents yiddish. On a eu 3 ou 4 différents accents qui se sont introduits dans notre existence à cause des aléas de l'histoire.
Oui, c'est marrant, je vois des symboles partout. Dans la chanson précédente, vous traversez la mer, ça m'évoque quand vous êtes parti en Afrique. Là, vous parlez d'une autre mer, c'est pas la même, mais on sent que son absence, ou plutôt sa présence absente, a été tellement forte pendant cette période cruciale de l'enfance que encore aujourd'hui, vous la chantez.
Si je faisais l'analyse dont on parlait tout à l'heure, je me dirais qu'à l'époque où j'avais le plus besoin de l'amour maternel, il n'était pas là.
Eh bien, on va l'entendre tout de suite dans le prochain extrait. Vous vous racontez tellement bien que, voilà, on va vous entendre directement sur le disque.
On nous sépare pour la 2e fois depuis que nous sommes arrivés en Corrèze, mon frère, ma sœur et moi. La Freie Zone, la zone libre, c'est fini. Des gens sont venus l'autre soir à la maison que papa a louée à Mossack, un petit village à côté d'Ussel. Une vraie maison, avec une vraie porte et de vraies fenêtres, pas comme à Nissan. Ils étaient très gentils, ces gens, très polis. Après, j'ai su qu'ils étaient de l'Oser, l'œuvre de secours à l'enfance qui a sauvé tant des nôtres pendant la guerre. Ils sont sortis dans la cour discuter avec papa et maman. Et le lendemain matin, on nous a annoncé la nouvelle.
Vous partez ?
Encore ? Mais pourquoi, Farvous ?
Vous savez très bien pourquoi. On vous l'a déjà dit 1000 fois.
Dit comme ça par ma mère, avec son accent pas possible, ça donne presque envie de rire. Même s'il nous l'avait déjà dit 100 000 fois. Nous, les enfants, on espère chaque fois qu'il y aura un miracle, qu'on pourra rester. C'est tellement dur d'avoir à les quitter.
Pourquoi est-ce qu'ils refusent de comprendre ?
Je sais bien que c'est très dur pour eux aussi, qu'ils font de leur mieux, que s'il n'y avait pas la guerre, tout serait différent.
Ce que je voudrais savoir, moi, c'est pourquoi la police française nous en veut tant.
Pourquoi ils nous en veulent tant aussi, ces Allemands ? On ne leur a rien fait, nous.
Ils doivent bien avoir des enfants aussi, ces gens-là. Ils devraient pouvoir comprendre.
Parfois, le soir dans mon lit, je me dis, est-ce que le monde entier n'a pas de cœur ? Mon frère et ma sœur ont été placés chez des gens, chacun de leur côté, je ne sais même pas où. Moi, c'est ma mère qui m'accompagne en train. Je me souviens encore des wagons en bois de 3e classe, des coups de sifflet déchirants de la locomotive, de l'odeur âcre de la fumée de charbon que le vent nous renvoyait en plein visage quand on se penchait dehors. Le soir, on arrive chez les Lassiailles, un brave couple de vieux paysans militants, des gens vraiment très bien, communistes, je crois. Ils ont une ferme dans un coin encore plus isolé que nous de la Corrèze, à Saint-Seutier.
« Tu verras, mon petit !»
me dit la vieille, avec son sourire tout édenté.
« Tu seras bien chez nous !»
J'ai vu. Quand ma mère repart et que je me retrouve tout seul, c'est comme si le monde entier s'écroulait. J'ai le cœur horriblement serré. J'ai envie de pleurer. Mais je me retiens.
L'âge exactement, Ben Zimet, lorsque on vous a séparé de votre frère, votre sœur et vos parents à Saint-Sétier, vous aviez quel âge ?
7 ans.
7 ans.
Ouais. C'est déjà un peu vieux.
On appelle ça parfois l'âge de la raison, mais ça devait être une raison à se faire difficile.
Non, j'étais vraiment perdu. Et en même temps, les Lassiailles, cette famille, j'ai revu la maison il y a pas longtemps, il y a un mois, j'étais dans le coin. Ils étaient très gentils avec moi. Ils voulaient être comme mes grands-parents, mais le cadre, je ne sais pas, qu'il y avait quelque chose qui me glaçait. Ce qui me manquait, c'était comme l'oiseau sur la branche dans la chanson des Tsigmangers, c'était la chaleur familière, les odeurs familières. Au lieu de cela, j'avais la chaleur du feu de bois dans la maison, là-bas à Saint-Seutier. Mais le dimanche, j'allais à la messe et j'étais enfant de cœur. Et cette église me glaçait. Et de réciter le Dominus Vobiscum, etc., et d'assister à le curé, j'étais pétrifié, mais je ne disais rien. Je ne disais rien. On m'avait dit, surtout, ne dis rien, surtout, fais semblant d'être le petit Benjamin des La Ciaille de Saint-Seutier. Et ça a duré pas mal de mois, et ça a laissé quand même une trace avec des images très, très précises, parce que vous savez, la mémoire, elle joue avec nous aussi. Et moi, j'avais décidé d'essayer de raconter tout ce dont je me remémorais de cette période. Eh bien, je crois que le plus marquant, c'est la période à Saint-Seutier, chez les La Ciaille, qui étaient des gens vraiment bienveillants, que je remercie de tout mon cœur et que je continue à remercier eux et tous les autres vrais patriotes français qui nous ont aidés, parce qu'ils ont considéré, tout comme Monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse en 1942, qui est monté sur chaire en disant « Les Juifs sont des hommes et les Juifs sont des femmes ». Eh bien, en 1942, il fallait avoir beaucoup de courage pour dire une chose comme celle-là dans la France de Pétain.
Ah oui, non, mais juste, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Votre histoire m'émeut aussi parce que mon père l'a vécu d'une certaine façon. Lui aussi a été un enfant caché. Et lui aussi a dû, sa mère, ils ont été cachés dans un couvent. Et ma grand-mère faisait les cours de catéchisme. Et lui, pour donner le change, était aussi enfant de cœur. Voilà. Donc je pense que c'est une histoire qui a été partagée par beaucoup, beaucoup de parents et d'enfants à cette époque-là. Mais moi, ce que je trouve fascinant dans ce CD, c'est que vous avez su faire renaître en vous ce petit bonhomme haut de trois pommes qui nous raconte sa vision de la guerre, c'est le ton, cette guerre qu'il ne comprend pas, pourquoi les adultes feraient-ils du mal aux enfants, c'est ce que vous dites, c'est ce qu'on a entendu, et puis jusqu'à cette période terrible où vous racontez cette rafle qui arrive et qui fait que là aussi vous devez repartir, vous cacher.
Il y a eu une rafle, ça s'est passé à Laplau, juste à côté de chez nous. Nous, on habite toujours à Maussac, à un hameau loin de tout. À Laplau, il y a une gare. C'est plus pratique pour regrouper les gens et les expédier, Dieu seul sait où. Maman nous a tout raconté pendant qu'on fuyait dans les bois. Comment les Allemands, aidés par la police française, s'y étaient pris. 8 familles en tout, plus les enfants. Ça faisait beaucoup, disait maman. Elle nous a aussi expliqué ce que c'était qu'une rafle. Mais moi, je n'ai pas tout compris. Surtout là où on envoie les gens. En Pologne. Pourquoi si loin? Chez nous, à Maussac, c'est calme en général. Et puis, dès qu'il se passe quelque chose, papa est prévenu par ses camarades des FTP. Ensemble, il leur arrive de couper des arbres en travers des routes la nuit pour empêcher les convois allemands et les autres de passer. Ils n'en ont pas coupé assez cette fois pour les familles juives de Laplau.
Voilà les souvenirs à la fois bruts et brutaux de cette enfance. Et donc, en fait, votre mère était un petit peu votre ange tutélaire, parce qu'elle allait vous voir, elle s'occupait. Et votre père était dans le maquis alors pendant ce temps-là.
Il était bûcheron et il était prévenu des déplacements des troupes allemandes et des Français quand ils venaient, parce que des camarades, il y avait une solidarité quand même chez eux. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce morceau, bout de texte que vous venez de citer, c'est que là, j'ai des souvenirs très précis aussi, et on voit le crime en action. Parce que cette rafle, elle date du mois d'avril 1943, je l'ai appris à travers le travail de M. Panzer, historien, qui habite aussi dans le coin. Et elle a été gommée des pages de la gendarmerie, c'est-à-dire pendant 4 jours. Mais maintenant, il y a une plaque là-bas. Mmh. Mais elle a duré 4 jours, cette rafle. Et on a ramassé tous les Juifs de Laplau, de Maussac, de tous les villages environnants, parce qu'il y en avait pas mal dans les villages environnants. Et on les a regroupés dans une grange dont j'ai l'image, encore la photo maintenant, dans une grange à Ussel, la sous-préfecture. De cette grange, on les a mis dans des wagons. Dans ce wagon, on a scellé le wagon. Ce wagon est parti pour Drancy, et de Drancy, il est parti à Auschwitz. Et voilà la rafle à laquelle j'ai échappé, moi, personnellement, qui a duré du 16 au 19 avril. Et je le ressens vraiment comme si j'étais partie prenante, involontaire, au crime. Parce que là, on le voit en action. Je suis dans un village perdu au fin fond de la Corrèze et je peux me retrouver 5 jours après, par le bon vouloir des autorités, surtout françaises, des Laval, des Bousquet et compagnie, je peux me retrouver à Auschwitz, dans la chambre de la mort, comme des milliers d'autres, des centaines de milliers, des millions d'autres. Mmh. Et c'est à cela que j'ai échappé ce jour-là. Et s'il n'y avait pas eu le fait que nous avons été prévenus, que ma mère est venue nous chercher à l'école, que nous avons marché toute la journée, que les paysans nous ont cachés jusqu'à ce que les Allemands et les autres disparaissent, eh bien, je ne serais pas ici à raconter cette histoire que je partage avec votre père et avec les milliers de pères, parce qu'il y a c'est incroyable le nombre de gens dont j'ai découvert qu'ils étaient aussi, comme moi, des enfants cachés pendant la guerre. Même Serge Gainsbourg.
Oui, oui, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la suite de votre récit, on est obligé d'avancer vite parce que l'émission se déroule et c'est pas tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Mais vous, en quelques mots, vous êtes hébergé après à Gages-le-Bas chez la veuve Fourniaud. Et là, on n'a pas le temps d'entendre le passage, mais vous racontez que c'est une vraie vie de château, mais de façon très humoristique parce que ce n'était pas du tout ça en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mots chez la veuve Fourniaud ?
Alors, la veuve Fourniaud était payée, je pense, par l'osé, ou par, comme c'était très courant, pour garder des enfants. Parce que les gens dans la campagne, ils n'avaient pas beaucoup d'argent non plus. Et elle avait 4 propres enfants, plus les enfants qu'elle hébergeait. Mais c'était divisé en 2 camps. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait ses propres enfants qui mangeaient à la table avec elle. Et de l'autre côté, il y avait les métèques. J'ai d'ailleurs une photo de cette époque où on nous voit... en train de sourire, c'est plutôt une grimace qu'un sourire, parce qu'elle nous maltraitait beaucoup. C'était très difficile, parce qu'il fallait qu'on travaille beaucoup, qu'on scie du bois. Si on ne coupait pas une serre de bois par jour, on n'avait rien à manger. Quand on avait à manger, c'était des pommes de terre bouillies à moitié pourries ou de la choucroute. Et finalement, pendant des années... Après, dans ma période à Montparnasse, quand j'allais à la coupole manger, et que je sentais l'odeur de la choucroute, ça, c'était la madeleine de Proust, ouais. qui me ramenait à cette période en Corrèze. Je ne pouvais pas manger de choucroute pendant des années, à cause de cette veuve de Gages-le-Bas en Aveyron et de la façon qu'elle nous a tous maltraités, quoi.
En fait, cette blessure qu'on sent tellement chez vous, et là encore, je vais faire appel un petit peu à la psychologie, c'est un peu comme le dit Boris Cyrulnik lorsqu'il parle du concept de résilience. Est-ce que ce n'est pas cette blessure qui vous a porté toute votre vie, qui a forgé votre caractère, cette envie de vivre et de réussir, et puis votre destin d'artiste ? C'est-à-dire, c'est à la fois une blessure, mais comme le dit Boris Cyrulnik, quand on arrive à vivre avec cette blessure, on est capable parfois de se faire mal pour aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire et réussir et montrer et prouver.
J'ai beaucoup de respect pour l'écriture de M. Boris Cyrulnik, mais je ne l'ai pas vraiment lu.
D'accord.
Et j'ai entendu parler de ce phénomène de résilience. Ce que je peux vous dire en ce qui me concerne, c'est qu'après la guerre... Comme tous les autres, j'ai tout fait pour étouffer l'histoire. Mmh. Et quand nous avons émigré en Amérique, en 1948, j'ai essayé de toutes mes forces de devenir un bon petit Américain comme tous les autres, enfin un Canadien, mais c'est le même style de vie, et de gommer toute la partie que nous avions vécue pendant la guerre. Sauf que nous vivions dans un cadre communautaire à Montréal.
Ben, on va l'entendre tout de suite, puisque vous le racontez justement dans un extrait, et on va entendre tout de suite cet extrait, donc vous racontez « Et maintenant à Paris ».
Et maintenant.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, Sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette à Paris.
Ah, vous avez connu ça?
C'est ma voisine de palier qui parle. Elle est parisienne, née après la guerre. Typiquement française. Oui, j'ai connu ça. Pas comme ceux qui ont connu le pire, ça non, mais enfin, ça n'a pas été facile pour le petit Benjamin. Damals, als es noch Galgen gab, da nicht war, gab es ein Oben.
Si vous voulez écouter la suite, il faut vous procurer le CD. Il n'y aura pas le choix, je redonnerai les références. Et vous parlez donc à Paris, vous venez d'évoquer votre parcours américain ou canadien, puisque je crois qu'après-guerre, vos parents ont voulu tirer un trait avec cette histoire, et donc vous êtes parti de France.
Ils ont voulu tirer un trait. C'était la guerre froide, et il y avait deux propositions, dans mon souvenir. Une d'aller en Israël, et l'autre d'aller au Canada, où nous avions de la famille. Ils ont choisi le Canada. Et en choisissant le Canada, ils ont choisi le rapprochement avec les autres membres de la famille, et en même temps, ils ont choisi « the good American way of life ».
Alors, « good American way of life » que vous avez quitté pour revenir à Paris dans les années 60, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Et là, vous vous êtes lancé après, vous êtes cherché dans la chanson et le conte yiddish. Et vous dites d'ailleurs dans le disque, à l'époque, on était peu nombreux. En fait, je crois que j'ai été le premier à me lancer à Paris. Alors, Ben Zimet, comme vous le savez, nous, dans les collections de l'Institut européen des musiques juives, on a des milliers d'enregistrements.
Il y avait Sarah Gorby qui était déjà là. Mais elle était dans un autre registre. Elle était adulée. Elle était roumaine, je crois.
Hein. Oui, oui.
Et puis, je l'ai rencontrée plusieurs fois. On s'aimait beaucoup. J'ai même interprété certaines de ses chansons. Mais moi, je suis allé de manière anonyme. D'abord, j'ai commencé en faisant la manche. Et j'allais dans les cafés, dans les restaurants, et je chantais yiddish, mais je ne disais pas ce que c'était. Et puis ensuite, les choses ont évolué très rapidement. Je me suis retrouvé dans les petits cafés-théâtres, d'ailleurs près d'ici, le Pétrin, juste à côté, sur la place de la Contrescarpe. Et puis Maurice Alezra m'a invité à la Vieille Grille. Et c'est là que j'ai fait mes débuts, vraiment sur scène, en 1900.
Puis après, ça a été vite. Il y a eu, enfin, plus ou moins vite, il y a eu Avignon. Enfin, il y a eu une véritable reconnaissance de votre travail. Et combien de disques exactement? Je ne sais plus combien vous en avez sorti, mais...
Je crois avec ceux que j'ai fait avec Dalila, en tout, ça doit faire une douzaine, à peu près.
Une douzaine, c'est un beau score. Et ben, je vous propose qu'on écoute, pour finir, un dernier morceau qui est extrait de ces 12 disques. J'ai trouvé cette très belle chanson, « Wie bist du gewesen », extrait de votre album « Chant Yiddish », qui a été paru, ou plutôt réédité chez Buda Musique. « Qu'est-ce que tu es devenu ?» dit la chanson. 70 ans après cette tragique enfance, il me semble que vous pouvez vous poser cette question avec sérénité vu la carrière que vous avez faite. On va donc entendre cette chanson « Wie bist du gewesen ?»
Wie bist du gewesen, wenn das Jugend ist gewesen und das Naden ist gelegen auf dem Tisch? Hand bist du, als kein Geld ist nicht du, und das Leben ist geworden, also ein Mies. Ja-da-da-dei, da-dei, da-dei, da-dei. Ja-da-da-dei, da-dei, 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 da-dei. Ja-da-da-dei, da-dei, 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 da-dei. Wie bist du gewesen, oi, wie bist du gewesen? Wie bist du gewesen, wenn das Jugend ist gewesen und das Leben ist gewesen, Sieges hieß? Hand bist du, als mein Kopf ist schon grün und das Leben ist geworden, also mies. Ja, da, 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 da.
un extrait de Wie bist du gewesen, donc extrait du disque Chant Yiddish de Buda Music. Ben Zimet, à peine plus jeune, mais on vous reconnaît bien. Mais il nous faut maintenant terminer car notre émission s'achève. Je voudrais dire que donc Ben Zimet va jouer son spectacle le 7, 8 et 9 novembre 2014 au Carré Rondelet à Montpellier. Donc tous les Montpelliérains ont la chance de pouvoir y aller, courez-y. Pour les autres, vous pouvez vous rattraper avec ce CD, donc Ben Zimet, un enfant de la Corrèze, qui est donc produit par le label MLP Music. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le site qui s'appelle du même nom, mlpmusic.fr, ou trouver même les références des musiques que nous avons passées sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Je rappelle l'adresse www.iemj.org. Ben Zimet, merci infiniment d'avoir été là. On aurait aimé rester des heures en plus, mais le temps nous est compté. C'est la règle du jeu à la radio. En tout cas, si vous souhaitez réécouter cette émission ou la conseiller à vos amis, je vous rappelle qu'elle est disponible sur le site donc, de l'Institut européen des musiques juives ainsi que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were my